Radio Okapi.
Maisha bora.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Maisha Bora, votre magazine de santé et bien-être sur Radio Okapi. Marcel Ngomombala est à la présentation. Tati Mapoku coordonne et réalise ce nouveau numéro mis en ordre par Jean-Claude Siala et supervisé par Tina Salama. Dépression au travail, causes et moyens de prévention, c'est le sujet que nous traitons dans ce nouveau numéro de votre magazine des promotions des questions de santé et bien-être. Maisha Bora, à toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. La dépression au travail concerne toutes les professions qui nécessitent un engagement personnel et collectif intense. C'est par exemple lorsqu'un employé a du mal à atteindre un résultat dans les délais impartis. Cela peut entraîner un stress permanent et qui va à la longue causer la dépression. Il y a cependant des mesures de prévention qui peuvent empêcher l'aggravation de l'état de santé mentale du travailleur en proie à la dépression. Quels sont les facteurs à base de la dépression en milieu professionnel? Comment se fait la prise en charge psychosociale et comment prévenir la dépression au travail? Voilà autant de questions auxquelles vous aurez des éléments de réponse dans ce nouveau numéro de Maisha Bora. D'après le docteur Ali Njoukendji, neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, en milieu professionnel, lorsqu'il y a un écart ou des difficultés entre les attentes du travailleur et certaines réalités liées à la profession, cette situation peut affecter émotionnellement un employé, ce qui se traduit par les syndromes d'épuisement professionnel.
Il y a un constat amer par rapport à ça, et c'est ce qu'on a eu appelé dans le temps le syndrome d'épuisement professionnel, et un terme est consacré en anglais qu'on appelle le burn-out. Ce terme a été créé tout d'abord par des soignants pour le soignant. Au départ, c'était utilisé comme un argot que les bénévoles ou les professionnels utilisaient pour parler de leurs collègues qui se sentaient submergés et qui étaient devenus cyniques vis-à-vis des personnes qu'ils prenaient en charge. Un grand constat amer sur le fait que pour la profession médicale par exemple, avec le cumul, il est décrit que 40% des professionnels de santé présentent ce syndrome, le burning out. Et il est entaché de ce qu'on appelle le taux de suicide. Il est 2,5 fois plus élevé pour les médecins que d'autres. Le malheur, c'est que c'est une réalité sociale qui est constatée et une entité clinique qui est contestée. Contestée pourquoi? Celui qui fait le cumul de travail ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Parfois, il y a un seul objectif, c'est pour des raisons pécuniaires le plus souvent. Mais on oublie le rendement qu'on donne et les résultats qu'on peut tirer de ce que nous sommes en train de faire. Au début, certes, c'est extrêmement spécifique à ce type de professionnels. Mais il y a même dans les mesures, il y a un outil que Maslach a fait, c'est le MBI, qui veut dire Maslach Burning Out Inventory. Au départ, c'était pour des professionnels de santé pure. Maintenant, il y a eu ce qu'on appelle l'extension à l'ensemble des individus au travail, les professeurs d'université. Tout ce qui, quand tu es en lien par rapport à ta profession avec l'autre dans cette relation, on peut présenter ces syndromes. Tenez par exemple un avocat qui, au courant d'une année, tous les client que l'aura défendu, il n'a pas obtenu gain de cause. Il risque de présenter ça. L'année qui suivra, il peut présenter, par exemple, des symptômes d'évitement par rapport à son travail. Un enseignant, on a toujours vu ça, même à l'université, nous avons tous été étudiants. Un professeur d'université qui entre dans un auditoire, un étudiant dérange, il considère la matière vue. Soit, il sort de l'auditoire, il considère que cette partie-là est déjà vue. C'est aussi un épuisement professionnel parce qu'il ne sait plus maîtriser son auditoire et il ne sait plus donner le meilleur de lui-même par rapport à sa profession.
Alors, que faut-il comprendre par dépression au travail? La dépression au travail qu'on désigne en anglais sous les vocables burn-out est un état d'épuisement professionnel qui combine de la fatigue, un désintéressement de l'activité professionnelle, un sentiment d'échec et d'incompétence selon Polydor Tangeli, expert en psychologie du travail.
Je vais me départir, au regard de la pédagogie de l'émission, je vais me dépouiller de définitions trop savantes. Le mot de pression a en son sein le mot pression. Ça va? C'est que l'individu, de par sa nature, son fonctionnement normal est caractérisé par un certain contenu énergétique. Ce contenu énergétique lui sert à mener des activités, notamment des activités professionnelles quand on est dans le cadre du travail. Mais cependant, à mi-parcours, lorsque la personne rencontre des situations qui crée un dysfonctionnement en lui, notamment le stress, notamment les désagréments de tous bords, hein, hein?
Les relations entre collègues,
les relations au plan humain, tout comme au plan matériel aussi, hein, les conditions, les conditions de travail, tout ça, les conditions matérielles, même les conditions organisationnelles, hein, ça peut faire que ces dysfonctionnements fait perdre à la personne son contenu énergétique. Il perd la pression. Vous voyez l'image que je donne. Il perd la pression et on dit de lui qu'il est déprimé.
Il perd la pression, il perd de l'énergie, il perd la sensation de bien-être.
Oui, il est quelque peu altéré. Il est altéré et lorsqu'on constate cela, on dit de la personne qui connaît une dépression au travail. Alors, une dépression au travail est spécifique, c'est-à-dire c'est pas une dépression qui est liée à des problèmes socio-familiales, socio-religieuses, non, c'est lié aux réalités du travail. Vous comprenez? Peut-être les rapports entre chef, la hiérarchie et les et la personne, c'est peut-être la satisfaction professionnelle qui se pose, ou encore la satisfaction des ambitions, hein. Donc ça peut faire que à cause du travail, la personne, en étant au milieu du travail, n'a pas son contenu. Hein? Il ne sait plus produire le meilleur de lui-même et on dit de lui qu'il est déprimé.
Il n'est pas dans son assiette, il n'est pas à l'aise, il est un peu préoccupé par les aléas liés à l'environnement professionnel.
Comme ça me rappelle quand nous étions à l'internat, il n'est pas dans son assiette, il est dans les plats communs, puisque on mangeait, il y avait un plat commun, et chacun avait son assiette. Et quand on dit de quelqu'un qui n'est pas dans son assiette, alors il est dans le plat commun. Donc, il n'est plus lui. Il n'est plus lui, et on sent qu'il a perdu ses contenus énergétiques qui faisaient de lui qu'il soit la personne qu'on connaît.
La dépression peut se comprendre aussi comme un trouble mental courant marqué par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration, ajoute le professeur Joachim Mukau Ebuel, psychopathologue.
Lorsqu'on dit qu'une personne est dans un état dépressif, souvent il faudra prendre, au lieu d'entrer dans des considérations beaucoup plus scientifiques, on peut prendre l'exemple d'un ballon. Un ballon qui est bien gonflé. Une fois que le ballon est gonflé, là, il est dans un état, on appelle, il y a une pression dans ce ballon-là. Mais lorsque le ballon est dégonflé, nous disons qu'il y a une dépression. On dit qu'il y a une dépression. On dit qu'un ballon qui est où il y a une pression, on peut très bien l'utiliser. Donc, on peut très bien l'utiliser à bon escient. Donc, il n'y a pas de souci. Mais une fois que ce ballon-là est déplacé, nous dirons que c'est une dépression. C'est dans cet état-là que nous pouvons considérer une personne. Une personne est dans un état normal. Évidemment, lorsque nous parlons de l'état mental, et concernant la dépression, c'est lorsque la personne a son souffle. Mais lorsque on retire le souffle dans la personne devient dépressive. C'est-à-dire que lorsque on dit relativement qu'une personne vit bien dans sa quiétude, donc la personne est vraiment bien, là, nous voyons que il n'y a pas de problème, donc la personne est en bonne santé mentale. La personne peut courir, la personne peut manger, la personne peut rire. Mais lorsque le souffle est retiré dans la personne devient essoufflée. Même au niveau de la marche, la manière de pouvoir marcher change. La manière de pouvoir dormir change. Donc la personne perd sommeil. On peut même remarquer au niveau même de la respiration, la personne respire comme si elle est essoufflée. Donc il y a beaucoup de signes organiques qu'on peut observer lorsqu'une personne est dans un état de dépression.
Certaines tâches professionnelles et l'environnement professionnel peuvent se transformer en lieu de souffrance morale pour certains employés. L'un des facteurs explicatifs les plus importants est la situation socio-économique actuelle qui ne permet pas à bon nombre de travailleurs de s'épanouir. Cela peut constituer un facteur pouvant déclencher la dépression chez certains employés. En chérie, le professeur Joachim Mukau Ebuel nous rappelons qu'il est psychopathologue.
Le premier facteur que je peux citer, c'est le stress, surtout le stress chronique. Un stress à répétition.
Permanent.
Une personne qui vit dans un stress permanent peut, en tout cas à la longue, développer une dépression.
Oui. Donc, une personne qui est soumise dans une situation contraignante, et c'est la même chose, la personne peut développer une dépression. Il y a aussi les conditions de vie sociale. Conditions de vie sociale, comme maintenant, dans cette période ici, nous devons craindre aussi une dépression chez certaines personnes. Pourquoi ? La recherche de la survie. On sort tous les jours. On doit chercher de l'argent. On doit nourrir les enfants.
Et parfois on cherche, on ne trouve pas.
Parfois tu pars, tu reviens, tu n'as rien. Tu es maintenant stressé par rapport à la manière dont tu t'attends à nourrir les enfants. Comment mes enfants vont-ils manger aujourd'hui? Tu es encore en route, tu es stressé. Tu es stressé. Maintenant, admettons que cela se fasse tous les jours, et que la personnalité peut céder, la personne peut tomber dans une dépression. Donc, les conditions de vie difficiles, M. Tati, aujourd'hui, en cette période, on ne peut pas s'étonner qu'on trouve beaucoup de consultations en santé mentale, le motif « je ne me sens pas bien, je me sens essoufflé, je trouve que la vie, j'ai envie de mourir ». On ne peut pas s'étonner. Surtout en cette période ici. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent développer une dépression, mais fort heureusement, en tant qu'Africain, le soutien social nous sauve. En tant qu'Africain, le soutien social nous sauve. La vie en communauté nous sauve. Mais sinon, on peut bien tomber dans une dépression en ce moment ici, où l'argent est devenu difficile, où le dollar est en train d'embêter les gens, où les gens qui pouvaient avoir un peu d'argent pour nourrir les enfants n'ont plus ce moyen-là. Et puis le mariage devient difficile en famille. C'est encore pire maintenant. Si la situation ne change pas, M. Tati, on peut bien rencontrer beaucoup de gens qui vont consulter les pasteurs, qui vont consulter les neuropsychiatres, les psychologues. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus capables de pouvoir tenir la vie.
De nos jours, la polyvalence et l'esprit d'équipe sont des critères déterminants pour avoir de bons résultats et garder son travail. Cependant, l'exécution simultanée des tâches contribue à l'augmentation du risque d'affection psychologique et d'accident du travail. Selon Polydor Tangeli, nous rappelons qu'il est spécialiste en psychologie du travail. Tôt ou tard, une personne sous pression permanente finit par craquer. Un travail trop absorbant entraîne un déséquilibre total dans la vie d'un individu. La promotion de l'esprit d'équipe est un facteur qui permet de contourner les aléas qui peuvent altérer l'état de santé mentale d'un collègue de service.
Les relations interpersonnelles à milieu professionnel sont une clé de réussite. Puisqu'au fait, le monde du travail est conçu tel que les hommes interagissent entre eux, les hommes interagissent avec leurs outils de travail. Aujourd'hui avec l'ordinateur est devenu presque votre ami.
Les hommes se repoussent aussi en même temps.
Oui, au fait, dans cette interaction, il y a des valeurs à promouvoir, notamment la cohésion. Or, la cohésion ne peut naître que d'une interaction positive. Et lorsqu'il n'y a pas d'interaction positive, donc, vous cessez d'être un groupe et vous ne produisez pas les bons résultats. Vous voyez, donc vous devenez un conglomérat de personnes, hein, un agrégat de personnes. Or, dans un milieu professionnel où les hommes sont appelés à interagir, il faut positiver les relations. Que des relations n'aient pas de corollaires, des effets nuisibles sur l'existence de chacun au sein du groupe. Donc c'est une dimension très très importante. Et là, c'est à tous les plans. Au plan horizontal, tout comme au plan vertical. Ça veut dire, le chef doit humaniser sa relation avec le subalterne. Le subalterne doit humaniser, c'est un effort au quotidien, humaniser sa relation avec sa hiérarchie. De la même manière qu'au plan vertical entre le chef et le subalterne, et horizontal entre
Les collègues de service,
ceux qui ont qui sont au même pied d'égalité, ils doivent s'estimer. Lorsque vous êtes au même rang que les autres et que vous développez un complexe de supériorité,
ou si vous vous sentez écrasé par les autres,
et muselé par les autres, ça joue sur votre performance et ça peut vous conduire à ce que nous avons évoqué ici, la dépression, la perte de du tonus. Voilà le terme que je cherchais, la perte de tonus. Donc, je donne le cas par exemple des collègues qui ont des complexes de supériorité. Il est là, c'est un monsieur qui connaît tout, qui ridiculise tout le monde. Donc, de pareilles attitudes sont des attitudes nocives en milieu professionnel et qui ne contribuent pas à la cohésion, qui détruit les corps que le groupe. Vous comprenez? Mais aussi des personnes qui viennent avec un complexe d'infériorité.
Oui.
Ils se sentent, par exemple, des stagiaires. Où est l'attitude des stagiaires, hein? Ils se sentent amoindris, tout ça, ainsi de suite. Alors qu'ils ont peut-être un potentiel, une plus-value.
Ils ne savent pas développer le potentiel
qu'ils devaient amener, qu'ils devaient amener dans ces groupes. Il peut être un stagiaire, mais il a certaines compétences exceptionnelles qui devaient être des compétences additionnelles pour le groupe, pour la performance du groupe. Mais malheureusement, suite à un complexe du débutant, vous voyez, donc, il fait perdre au groupe ce dont il a besoin. Donc, la dimension humaine est très, très importante. La dimension relationnelle est très, très importante en milieu de travail.
Merci d'écouter Radio Capi et bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix. Vous suivez Maïcha Bora, votre magazine de promotion des questions de santé et bien-être. Nous parlons aujourd'hui de la dépression au travail, cause et moyens de prévention. D'après Polydor Tangeli, expert en psychologie du travail, les employés qui souffrent de la dépression au travail ressentent une absence de reconnaissance par leur hiérarchie des difficultés inhérentes à leur travail. Ils doivent faire face à des contradictions comme par exemple satisfaire un client tout en lui consacrant les moins de temps possible. La dépression en milieu professionnel se caractérise par l'épuisement émotionnel, sentiment d'être vidé de ses ressources émotionnelles, la dépersonnalisation qui se traduit par l'insensibilité au monde environnant et par les sentiments de ne pas avoir bien accompli son travail, suivant les explications de Polydor Tangeli.
Oui, les signes qui ne trompent pas sont à voir dans ce que j'ai dit.
Oui.
Nous avons parlé de la déliquescence du contenu énergétique. Le fonctionnement normal d'un individu est caractérisé
par... Cela se manifeste par quoi exactement? La colère, la nervosité, l'hystérie, ça se manifeste comment?
D'abord, un manque d'énergie. Vous comprenez? Un manque d'énergie.
Un désintéressement.
Quelqu'un qui était très actif, qui prenait des initiatives, mais...
Il n'a plus le cœur à l'ouvrage.
Un désengagement, ça c'est d'abord premièrement, l'inattention. Donc, il est avec vous sans être là.
C'est comme s'il n'est pas là.
Oui, sans être là, donc il est physiquement, mais psychologiquement, il est focalisé.
Il a la tête ailleurs.
Il a la tête ailleurs, donc ça ce sont les manifestations. Mais aussi, si l'on ne s'y prend pas bien, ça peut développer aussi des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire des maladies qui n'ont pas de preuves physiologiques, vous comprenez? Et la personne peut même aller jusqu'à à délirer. Hein? Et là, c'est des cas extrêmes qui deviennent presque des cas pathologiques.
Est-ce qu'on peut classer les monologues pour le compte des signes caractéristiques de la dépression?
Mais exactement. Puisque devant une situation, si par exemple, je vais faire une illustration, si la dépression est due au rapport professionnel, hein, aux relations professionnelles entre
collègues de service dans une équipe,
oui. Ouais, et que la vie professionnelle d'un des collègues en pâtit. Mais vous le verrez. Par exemple, s'il veut lui transmettre le rapport, vous allez le voir faire un petit monologue. et tu vas pas encore accepter. Hein. Et tu vois, c'est comme s'il parlait. Il va faire le monologue. Ça fait partie de septembre.
Il va faire la saisie, mais en même temps, en train de parler et de monologuer.
Exactement. Mais cependant, il faut souligner ici un principe psychologique qui est non négligeable. C'est que les manifestations de tout dérapage, de tout fonctionnement, sont personnalisées, sont individualisées. Donc, les symptômes ne sont pas... Il y a les symptômes généraux. Par exemple, la perte de l'énergie. Hein?
Donc, la démotivation, l'inattention.
Oui. Mais cela se manifeste de manière singulière
au cas par cas,
d'un individu à un autre. Oui. Tout dépend aussi des prédispositions psychophysiologiques qui sont les vôtres. Hein? Lorsque vous affrontez
les problèmes,
telle autre situation.
Autre chose à retenir, la dépression en milieu professionnel se caractérise aussi par la tristesse, la perte d'intérêt, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, ajoute le professeur Joachim Mukawebwel. Nous rappelons qu'il est psychopathologue. Dans certaines circonstances, elle peut s'accompagner des troubles du sommeil et de manque d'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration.
Mais oui, il y a des signes qui sautent aux yeux. Et évidemment, tout part du style de vie habituel. Le changement de la manière dont la personne vit. Vous verrez par exemple qu'une personne devient beaucoup de plus en plus pensive. Une personne qui riait, une personne qui vaguait à ses occupations librement, on voit que la personne devient pensive. La personne devient de moins en moins intéressée à son propre travail. La personne devient de moins en moins intéressée à son propre travail. On peut remarquer même au niveau de la marche, au niveau moteur, la personne qui marchait, vous sentez que la personne est en train de passer, même le rythme de la marche change. Ça change. On peut remarquer également, même au niveau de la tenue vestimentaire, on voit que la personne commence à s'habiller de manière négligée. Donc, il y a beaucoup de signes. Mais sur le plan organique encore, on peut remarquer que la personne, même le mode, la manière de pouvoir respirer change. Donc, il y a beaucoup de signes qu'on peut observer chez une personne qui a une dépression.
Que faut-il alors faire pour combattre la dépression au travail? D'après le professeur Joachim Mukawebwel, psychopathologue, on peut recourir à une psychothérapie en cas d'une dépression légère, mais en cas d'une dépression sévère, on peut associer la psychothérapie à des antidépresseurs, mais aussi apprendre à bien gérer les défis de la vie.
Lorsqu'on prend la personne en thérapie, en ce moment-là, ça dépend du problème. Une personne peut être dépressive parce que, je donne un exemple banal, n'a pas réussi à l'école. Les attentes par rapport à tout le parcours, je devais réussir parce que c'était difficile pour moi de pouvoir terminer l'année. Mais la personne arrive, elle est ajournée. Un étudiant ajourné, prédisposé à une dépression, sera dépressif. Maintenant, s'il faudra prendre cet étudiant-là en thérapie, il faudra bien positiver la situation. L'amener à comprendre que dans la vie, il y a deux choses. Ou bien tu échoues, ou bien tu réussis. Mais l'échec ne peut pas te faire affaisser. L'échec est une crise. Et lorsqu'on est devant une crise, il faut tout faire pour la surmonter. Voilà. Donc, la crise est une opportunité. Il faudra arriver à l'étudiant, arriver à montrer à la personne que c'est une crise, tu es devant une crise. Et lorsqu'on est devant une crise, on ne peut pas mourir, on ne peut pas tomber, on ne peut pas continuer à pleurer. Mais il faudra arriver à conduire la situation comme étant une opportunité qui te permet de pouvoir réfléchir comment améliorer la prochainement.
La répartition des tâches, l'organisation du travail et les contraintes qu'elles génèrent ne doivent pas surcharger certains employés et décharger d'autres collègues de service. Il faut aussi apprendre à partager vos préoccupations entre collègues de service afin de prévenir des tensions au sein d'une équipe de travail. N'hésitez pas de révéler vos soucis à votre médecin de famille. C'est ce que pense Dr Ali Njoukenji, neuropsychiatre CNPP.
En tout cas, dans la vie, il faut avoir une hygiène de vie, être vigilant par rapport à ce que nous faisons et avoir quand même un médecin référent. Nous n'avons pas cette culture d'avoir un médecin. Il n'y a pas de médecin de famille. Et des gens, surtout les soignants, ils sont comme au centre d'un cercle où en haut, il y a la toute-puissance. En bas, c'est la culpabilité. À gauche, c'est le déni. À droite, c'est la honte. Donc, ils ne peuvent pas aller quelque part. Et cela fait que, même quand on a une certaine souffrance psychique, on a des difficultés pour pouvoir l'exprimer. Partager ses problèmes avec l'autre, et ce qui caractérise notre société en général, c'est ce qu'on appelle les troubles de sensibilité interpersonnelle. Il y a des gens qui peuvent facilement se dire bonjour, qui peuvent se faire des accolades, mais c'est extérieur. Dans leur fond intérieur, il n'y a pas d'amour. Si bien que on ne sait pas partager des difficultés que nous avons. Ailleurs, il y a des gens, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais encore étudiant, quand on faisait des stages au centre Bondeko, à chaque jour, à 12 heures, il y avait l'échange d'expérience. Et vous venez, quelqu'un qui vous dit, non, moi j'ai eu tel cas, voilà les difficultés que j'avais. Et quelqu'un est là pour pouvoir vous aider. Mais vous allez voir, dans des grandes institutions ici au pays, ce mécanisme, ce système-là d'aide n'existe pas. Nous sommes face au stress de certaines personnes tous les jours. Moi, par exemple, je ne peux pas quitter de chez moi avec un problème. J'ai toujours dit ça à mon épouse. J'ai dit non, je ne peux pas. Parce que là où je vais, au CNPP, c'est une boutique à problèmes. Donc, je ne peux pas amener mes problèmes là-bas. Imaginez-vous si tu as des problèmes à la maison avec ton épouse et tu vas au travail et tu tombes devant un malade qui a les mêmes problèmes que vous. Mais vous allez pleurer ensemble et vous n'allez plus l'aider. Quand je parle des gènes de vie, je parle aussi des partages d'expérience. Et lorsqu'il y a la sensibilité interpersonnelle, les gens ne parlent plus avec leur cœur mais avec leur bouche. Voilà les gènes de vie qui tiennent compte aussi de bien prendre soin de soi-même et avoir l'échange, l'esprit de partage. Il a été décrit au Japon, je crois, en 1969, des cas de ce genre. Quelqu'un qui est mort pour excès de travail, ils ont même appelé ça karoshi. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, vous savez, le burning out est entaché beaucoup aussi de tentatives de suicide. Deuxième aspect, quelqu'un peut mourir d'un suicide. Soit ils ont parfois des idées de suicide, si pas des idées, c'est même des comportements suicidaires. Quelqu'un qui est là, qui travaille dans des machines où il doit avoir une certaine vigilance et qui ne sait pas l'être, il y a la conséquence qui peut arriver. Il peut mourir. On va considérer ça comme accident de travail, mais en réalité, c'était un équivalent suicidaire.
La prévention de la dépression liée au travail passe aussi par une bonne hygiène de vie, conclut le professeur Joachim Mukawebwel. Apprenez également à bien gérer émotionnellement certaines contraintes rencontrées dans l'exercice de vos métiers. L'organisation de l'emploi du temps, la détente et le sport contribuent efficacement à la prévention de la dépression.
Il faudra, comme tu l'as bien dit, positiver les choses. Il faudra accepter les choses. Il faudra aussi gérer son temps. La gestion du temps, c'est aussi l'un des moyens de pouvoir s'en sortir par rapport au stress. Gérer son temps, positiver les choses, les situations qui arrivent, mais aussi utiliser, prenons le sport. Le sport, c'est aussi un moyen important de pouvoir aussi tuer un stress chronique. Voyez. La détente, le stress, donc vivre en groupe, chercher à fréquenter les autres aussi, et aussi chercher même aussi à confronter la situation de stress ou de la dépression. Voilà. Tu as été dépressive parce qu'il y a des gens que tu ne veux pas voir, parce qu'il y a eu une déception importante. Il faut accepter maintenant cette déception. Tu l'acceptes, tu la positives. Tu fais ton deuil. Faire le deuil d'une situation d'angoisse, d'une situation de mélancolie.
Et le faire passer.
Voilà. J'ai des gens comme ça, une dame qui dit, bah, écoutez, je ne sais pas, parce que maintenant c'est toute une séparation qui va arriver. C'est un divorce qui va arriver. Je ne sais pas comment je vais faire. Eh bien, il faudrait bien faire le deuil si possible. Tant que tu n'auras pas fait le deuil, tu auras toujours des coupures de sommeil. Tu en auras toujours. Mais lorsque tu fais le deuil, ce n'est pas le un jour, mais au jour du jour, au fur et à mesure que tu fais le deuil, tout en étant positif par rapport à la situation. Voilà. Et au fur et à mesure, tu vas t'en sortir.
Fin de ce numéro de Maïcha Bora où il a été question de la dépression au travail, cause et moyens de prévention. Merci à tous de nous avoir suivis. À la réalisation et coordination Tati Mapoukou, à la mise en onde de Jean Kondiala, au micro Marcel Ngomombala sous la supervision de Tina Salama. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Maïcha Bora. D'ici là, portez-vous bien.